La culture générale, c'est Sirius Audio et l'éléphant.
J'ai la mémoire qui flanche.
100 milliards de neurones pour se souvenir. Pensez à la mémoire, et l'image que vous vous en faites est probablement celle d'un disque dur, comme ceux des ordinateurs. La mémoire devient alors un espace, ou un disque, dans lequel nous venons déposer ou écrire nos souvenirs et nos connaissances. Cette métaphore suggère qu'il serait possible de localiser à un endroit précis de notre cerveau cette mémoire, le lieu de stockage. Toujours selon cette image, chaque souvenir devrait avoir sa propre place et serait donc localisé à un endroit précis. Cette idée est d'autant plus séduisante que notre cerveau contient un nombre astronomique de neurones, plus de 100 milliards selon les estimations actuelles. Cependant, ceux-ci assurent essentiellement la transmission de l'information sous forme d'impulsions électriques et chimiques. Un neurone ne peut pas stocker d'informations complexes. Il n'existerait donc pas de neurone grand-mère, c'est-à-dire un neurone contenant toutes nos connaissances sur notre grand-mère. La mémoire dans les liens. Mais alors, comment les connaissances peuvent-elles être stockées ? Le cerveau possède une propriété encore plus importante et intéressante que son nombre de neurones, c'est la connectivité des neurones entre eux. Ainsi, la plupart des connaissances seraient en fait le résultat, l'émergence, de l'activation d'associations de neurones plutôt que le fait d'un neurone pour chaque connaissance. Chaque neurone ne stockerait qu'une infime partie de la connaissance. Chacun des neurones est en effet connecté indirectement à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'autres via des synapses. Le nombre de ces connexions est estimé à environ 0,15 quadrillion, c'est-à-dire 1,5 puissance 14. Ce nombre est tout simplement vertigineux. Comme il est dit dans Amélie Poulain, le nombre de connexions possibles dans un cerveau humain est supérieur au nombre d'atomes dans l'univers. Bien que ce soit inexact, cette phrase illustre bien la démesure du phénomène.
La culture générale, c'est Sirius Audio et l'éléphant.
Le nombre de neurones, comme leurs connexions, augmente très rapidement durant le développement de l'embryon humain. Cependant, le stock de neurones va diminuer progressivement à partir de l'âge adulte. Les connexions connaissent une évolution différente, avec une baisse rapide de leur nombre dans nos premières années de vie, ce qui est dû à une sélection des réseaux qui sont les plus efficaces. Cette sélection est contrebalancée par le fait que nos nouveaux apprentissages créent de nouvelles connexions, et ce, quel que soit l'âge. Demeurer actif et continuer à apprendre de nouvelles choses est donc une des clés essentielles pour entretenir notre mémoire. À cheval sur la mémoire, l'hippocampe. Il existe tout de même des régions cérébrales plus fortement activées selon le type de souvenir qui émerge. Ainsi, la structure cérébrale la plus associée au fonctionnement de la mémoire est certainement l'hippocampe. Il s'agit d'une petite structure logée au sein de chacun des deux lobes temporaux, au niveau de vos tempes, qui tire son nom de sa forme qui rappelle l'animal marin éponyme. L'hippocampe est reconnu pour jouer un rôle clé dans le traitement spatial. Par exemple, des chercheurs anglais ont montré que les chauffeurs de taxi londoniens avaient une partie de leur hippocampe plus développée, plus volumineuse que celle d'autres participants. L'hippocampe serait également particulièrement impliqué dans le traitement du contexte temporo-spatial. Autrement dit, cette structure est activée lorsque nous nous souvenons de l'endroit, du où, et du moment, du quand, lié à un souvenir. Les souvenirs dits épisodiques sont par conséquent très dépendants de cette structure. Le cerveau, un labyrinthe, l'emmagasinage de nos connaissances générales, sémantiques, ne semble pas vraiment dépendre d'une structure en particulier dans le cerveau. Ce serait davantage un réseau qui s'étend le long du lobe occipital, l'arrière de notre crâne, jusqu'aux lobes temporaux et pariétaux, partie supérieure et médiane du crâne, qui serait le plus impliqué dans cette fonction. La partie antérieure de notre cerveau, les lobes frontaux, jouerait davantage un rôle dans la recherche des souvenirs, et dans leur évaluation, comme de savoir si c'est un vrai ou un faux souvenir, par exemple. L'implication d'un large réseau de neurones est d'ailleurs valable pour la plupart des souvenirs, puisque la recherche moderne démontre l'activation de nombreuses régions du cerveau pour faire fonctionner notre mémoire. Par exemple, se souvenir d'un épisode mémorable de sa vie, comme une rencontre amoureuse, activera les aires du cerveau qui traitent la vision, l'audition, l'émotion, etc. De même, reconnaître un outil activera les aires cérébrales impliquées dans le traitement du mouvement et des actions que nous pouvons effectuer avec cet outil. En guise de conclusion, on peut imaginer les souvenirs comme un puzzle. Chaque petit composant du souvenir, couleur, forme, son, émotion, est associé aux autres composants. C'est la configuration de cet assemblage qui définit ce souvenir. La mémoire chez Aristote, texte de Fabien Trécourt. Le thème de la mémoire apparaît dès les premières lignes de la métaphysique d'Aristote, l'un des plus grands livres de l'histoire de la philosophie. C'est ce qui permet à l'auteur, élève de Platon, de distinguer l'homme de l'animal. Dans la nature, explique-t-il, tous les êtres vivants peuvent voir, entendre ou encore toucher quelque chose. Ils ont des sensations. Pour autant, écrit le philosophe, cette connaissance, chez les uns, ne produit pas la mémoire. Elle la produit chez les autres. Se souvenir, de ce point de vue, c'est avoir de l'expérience. C'est comprendre qu'une situation qui s'est produite dans le passé se répète aujourd'hui malgré de légères différences. C'est, par exemple, avoir vu des chênes et des sapins, puis regarder un être et comprendre que tous ont quelque chose en commun. Pour Aristote, certains animaux peuvent faire preuve d'une certaine expérience, mais seulement à grand-peine. De fait, il existe une différence de mémoire entre ceux qu'on peut dresser et les autres. L'homme, en revanche, fait un pas de plus. Il est capable de rassembler des expériences similaires en une idée générale. L'arbre, par exemple, qui agrège le souvenir des chênes, des sapins et des hêtres. Mais pour Aristote, ceux qui se contentent de leur expérience sont limités. Ils savent bien que telle chose est, mais ils ne savent pas pourquoi elle est. Tandis que le philosophe continue de s'interroger. Si la mémoire fonctionnait seule, le risque serait de s'enfermer dans des habitudes.
Retrouvez tous nos podcasts sur notre site Serious.audio.